Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est tenue exceptionnellement à huis clos à 19h30. Alors, je vais prendre les présences. Monsieur François Racine. Monsieur Jean-Guy Lajeunesse. Monsieur Legault. Monsieur Blot. Monsieur Robillard. Madame Lantier.
Présente.
Alors, avant de débuter l'Assemblée, alors, chers citoyennes et chers citoyens, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers et le personnel de la ville présent, à savoir la greffière et le directeur général, avant d'amorcer mon intervention, je vous informe que nous avons pris la décision de tenir cette séance à huis clos car nous sommes limités à une capacité de 50 personnes, incluant les membres du conseil et du personnel, ce qui réduit d'autant les places pour les citoyens. Il faut noter qu'à compter du 3 août prochain, le gouvernement du Québec autorisera les rassemblements de 250 personnes ou moins. Les citoyens pourront donc participer en grand nombre. Comme vous l'avez sans doute lu sur notre page Facebook et sur notre site Web, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac travaille assidûment à mettre fin aux problèmes de coloration de l'eau dans certains secteurs. Nous sommes conscients des désagréments occasionnés par la situation qui est provoquée par l'oxydation du manganèse dans le réseau. La problématique de la coloration de l'eau est apparue il y a quelques années et depuis, la Ville a multiplié les interventions, notamment avec l'installation d'un nouveau système de nanofiltration et de filtrage biologique de la station d'eau potable en 2017, représentant un investissement de 5,5 millions, dont 90 % ont été assumés par nos gouvernements. N'ayant pu obtenir les résultats escomptés, la Ville vient de déployer un plan d'action plus large qui s'attarde non seulement au fonctionnement de la station d'eau potable, mais aussi au réseau d'aqueduc et aux puits, et ce, avec la collaboration de la population. Une analyse de l'efficacité de traitement des filtres a débuté afin d'obtenir les critères d'opération optimaux qui permettront la réduction du manganèse. Aussi, des tests de pompage seront exécutés afin de vérifier s'il est possible d'améliorer la qualité de l'eau extraite des puits. Cet exercice est réalisé en collaboration avec une chaire de recherche spécialisée dans la filtration sur berge de Polytechnique Montréal. La coloration de l'eau étant le résultat de l'oxydation du manganèse, on doit examiner l'eau des puits, les filtres, les procédés d'aération et de chlorination à la station, de même que le réseau complet d'aqueduc. La participation de la population est essentielle afin de recueillir toute l'information pertinente à l'étude chez les citoyens concernés par le problème. En effet, la Ville a mis en ligne jusqu'au 31 août prochain un rapport d'événement pour les citoyens touchés par un épisode d'eau colorée afin d'avoir un maximum d'informations sur le réseau d'aqueduc et le test d'optimisation des puits. On peut remplir ce rapport sur notre site Web. Il faudra ensuite rédiger et diffuser un appel d'offres pour mandater une firme d'experts, octroyer le contrat d'expertise, analyser la problématique et recevoir leurs recommandations. Cela peut s'échelonner sur plusieurs semaines, mais la Ville vise une résolution de la problématique le plus rapidement possible. Nous avons d'ailleurs procédé à l'embauche tout récemment d'un directeur du service des travaux publics, en l'occurrence M. Kevin Pinchot, qui travaille avec énergie sur ce dossier prioritaire. Et je peux vous dire qu'il y travaille presque jour et nuit. Je tiens à souligner à l'ensemble de nous, citoyennes et citoyens, que nous travaillons sans relâche à régler cette problématique et que nous assurerons un suivi régulier auprès d'eux. Puisqu'il est question de suivi, je vous informe que les différentes étapes de ce plan ainsi que les résultats d'analyse de l'eau potable seront disponibles à compter du 29 juillet sur notre site web, c'est-à-dire dès demain. Ces informations seront régulièrement mises à jour afin que la population ait facilement accès à toute l'information pertinente. En terminant, je vous relaie la demande du gouvernement du Québec à l'effet de sensibiliser les jeunes de 15 à 34 ans de votre entourage à l'importance de respecter les consignes sanitaires pour éviter la propagation du virus, soit porter un couvre-visage dans les lieux publics, se laver ou se désinfecter les mains, ne pas organiser ni participer à des rassemblements de plus de 10 personnes et respecter la distanciation sociale de 2 mètres. C'est important de respecter ces consignes pour leur santé, mais aussi pour celle des membres de leur famille et de leur entourage. Alors, je vous remercie. Nous allons débuter l'Assemblée. Alors, nous allons passer au point numéro 1, ordre du jour, adoption.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
Qu'il propose.
François Lopin le propose.
Qu'il appuie.
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Au point numéro 2, procès-verbaux, adoption.
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2020 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 2020 tel que soumis.
Qu'il propose?
Jacques Blou le propose.
Qui l'appuie?
Et le gros l'appuie.
Point numéro 3, liste des comptes à payer, adoption.
Il est résolu d'adopter les listes des comptes à payer en date du 28 juillet 2020, à savoir le registre des chèques remis pour le mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 118 226,18, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 428 388,17, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de 1 897 650,91, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs.
Qui propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Legault l'appuie.
Alors, nous allons passer aux avis de motion. 4.1. Avis de motion quant au règlement 674-4 modifiant le règlement 674 concernant la tarification des biens et services.
Yves Legault donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil de présenter ou faire présenter le règlement 674-4 modifiant le règlement 674 concernant la certification des biens et services et dépose en ce sens le projet. Depuis, demande les faits de dispenser de lecture du règlement, de ce chacun des conseillers en a reçu une copie.
Alors, il s'agit de rajouter dans les permis de construction et d'habitation. On modifie dans le cadre de la construction de type multifamilial. La contribution au fond de l'arbre selon la formule suivante. Le coût du permis, 350 $, multiplié par le nombre d'unités, plus 350 $ qui est versé au fond de l'arbre. Et il y a une autre petite modification, c'est que la contribution de 350 $ au fond de l'arbre ne sera pas exigée lorsque le demandeur conserve au moins un arbre mature sur le lot. Alors, le 350 $ n'est pas exigé.
Peux-vous répéter la dernière modification, s'il vous plaît?
C'est que le montant de 350 $ n'est pas exigé si le constructeur garde un arbre mature sur son lot. Alors, on modifie ce paragraphe-là. À cause des gens qui ont été inondés et qui construisent, entre autres. Donc, ces gens-là, on n'exigera pas le montant au fond de l'arbre puisqu'il y reste des arbres matures sur leur terrain.
Et juste pour un commentaire, dans les papiers que vous m'avez envoyés, malheureusement, j'ai une feuille sûrement des modifications, mais je n'ai pas le règlement avant et le nouveau règlement. Là. Je ne sais pas si c'est l'entièreté que vous m'envoyez
Bon, c'est les lignes que je vous ai indiquées. Par contre, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville et vous pouvez aller lire le règlement 674 actuellement en vigueur et vous verrez la différence.
Quand on m'envoie des documents, là, on est supposé m'envoyer tous les documents pertinents à la prise de décision.
Alors, c'est un avis de motion, M. Robillard. Vous aurez tous les détails quand on adoptera le premier projet de règlement. Alors, nous allons passer au point...
Le projet de règlement, il s'en vient dans quelques points à l'Assemblée.
Oui, mais vous l'avez. Vous avez eu tous les documents pertinents, M. Robillard. 4.2, règlement 822-17, modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux descentes de bateaux appartenant à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Et le jour, je donne l'avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 822-17, modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux descentes de bateaux appartenant à la ville de Saint-Pierre-sur-Lac et dépose en ce sens le projet. De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu une copie.
Alors, dans ce règlement, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie et on abroge, parce que dans le règlement quant au stationnement, pour les descentes à bateau, on parle de la 13e avenue et on ne parle absolument pas d'autres endroits sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, on a tout simplement rayé 13e avenue. Alors, 4.3, règlement 1300-3, modifiant le règlement 1300 de permis et certificats afin de modifier la définition du sous-sol.
Yves Legault donne l'avis de motion à l'effet d'une prochaine séance du Conseil. Je présenterai ou ferai présenter le règlement 1300-3, modifiant le règlement 1300 de permis et certificats afin de modifier la définition du sous-sol et dépose en ce sens le projet. Depuis, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu une copie.
Alors, il s'agit ici d'ajouter une partie d'un bâtiment qui doit se situer à au moins 60 cm sous le niveau moyen du sol, alors que l'ancien libellé n'était pas aussi précis et il engendrait une problématique au niveau de l'interprétation. Alors, nous allons passer à 4.4, avis de motion quant au règlement 1400-58, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée.
Yves Legault, je donne l'avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1400-58, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée et dépose en ce sens le projet. De plus, demande est faite de dispenser la lecture du règlement puisque chacun des conseillers on a reçu une copie.
Alors, comme la nappe, il s'agit ici, là, comme la nappe phréatique est quand même très haute à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, surtout les gens qui ont été inondés et qui doivent reconstruire, alors le niveau de la crête, on augmente à 2,5 mètres par rapport à la crête de la rue, pour justement aider les gens à ne pas être obligés d'aller en dérogation mineure qui leur serait refusée parce qu'on est dans la ZIS, on ne peut accepter de dérogation mineure.
Madame la mairesse, ça va être bon pour l'ensemble de la population, ça veut dire que pour tous les secteurs de Sainte-Marthe-sur-le-Lac?
Oui. Alors, nous allons passer au point numéro 5, les règlements. 5.1, second projet de règlement P2-1300-2, afin de modifier le règlement de permis et certificats numéro 1300 afin de légiférer la garde de poules pondeuses sur le territoire de la ville. Alors, adoption du second projet.
Considérant qu'un règlement concernant les permis et certificats est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'en modifier le contenu, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049, considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, en conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1300-2 afin de modifier le règlement de permis et certificat numéro 1300 afin de légiférer la garde des poules pondeuses. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui le propose?
Jean-Yves Bonneau le propose.
Et qui l'appuie?
C'est les déclenchés de l'appui.
Madame la
mairesse,
je demanderai le vote
du Legault. D'accord. Alors, M. Racine?
Oui.
Monsieur Lajeunesse?
Oui.
Monsieur Legault?
Oui.
Monsieur Blot?
Oui.
Monsieur Robillard?
Oui.
Madame Lantier?
Oui.
Alors, c'est adopté à la majorité. 5.2, premier projet de règlement 1300-3, modifiant le règlement 1300 de permis et certificats afin de modifier la définition du sous-sol.
Considérant qu'un règlement concernant les permis et certificats est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'en modifier le contenu, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 28 juillet 2020, en conséquence, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement 1300-3, modifiant le règlement 1300 de permis et certificats, afin de modifier la définition du sous-sol. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Qui le propose? Qui l'appuie?
De l'appui.
5.3, second projet de règlement P2-1400-55, modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter une précision quant aux espaces de stationnement.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049, considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, en conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1400-55, modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter une précision quant aux espaces de stationnement. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Qui le propose?
C'est déclenché, je le propose.
Qui l'appuie?
Bonjour, je
5.4, second projet de règlement P2-1400-56, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de légiférer la garde de poules pondeuses.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049, Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, en conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1400-56, modifiant le règlement du zonage 1400 afin de légiférer la garde de poules pondeuses. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Qu'il propose? Qu'il appuie?
C'est de déclencher de l'appui.
Bon. Alors, M. Racine?
Oui.
M. Lajeunesse?
Oui.
M. Legault?
Oui.
M. Blot?
Oui.
M. Robillard?
Oui.
Mme Lantier?
Oui.
Alors, c'est adopté à la majorité. 5.5, second projet de règlement.
Avant de
Moi, je vais vous dire qu'on n'est pas sur le même téléphone et je vais même vous dire que nous avons cet écho-là, M. Robillard, nous aussi. Alors, ça vient de quelqu'un à son domicile. D'accord. Alors, nous allons passer au point 5.5. Second projet de règlement P2-1400-57, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions du logement supplémentaire ou intergénérationnel.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux reconduit par le décret 2020-049, considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, en conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1400-57, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions du logement supplémentaire ou intergénérationnel. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption finale.
Alors, qu'il propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lantier de l'appui.
Alors, nous allons passer au point 5.6, premier projet de règlement 1400-58, modifiant le règlement 1400-58 afin de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 28 juillet 2020, en conséquence, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement P1-1400-58, modifiant le règlement 1400 afin de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption finale.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie?
J'ai juste une question, Mme la mairesse. On n'aurait pas pu faire en sorte que ce règlement-là s'applique seulement aux résidents qui sont en bas de chemin d'Oka, dans le fond, qui ont été touchés ou qui sont. Parce que ce règlement-là vise vraiment les personnes qui doivent reconstruire là, suite aux didactiques.
Bien là, pour l'instant, on l'a adopté comme ça, M. Robillard, puis.
OK, mais parce que là, ça veut dire que toutes les nouvelles constructions pour. voudrais avoir un seuil de porte de 0.5 parce que là, on est à 2 mètres, on tombe à 2 mètres, 2,5 mètres. Ça veut dire qu'il faudrait tout être à 0.5 mètres de plus haut.
Oui. Alors, nous allons passer au point numéro 6, l'urbanisme 6.1, demande de PIA quant à la propriété située au 75 40e avenue.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre le remplacement des fondations existantes par de nouvelles fondations à l'abri du gel, le rez-de-chaussée est à un maximum 6 pieds 7 pouces du niveau de la rue. Considérant que la recommandation positive du comité consultatif par sa résolution CCU 2020-07-65, considérant que la demande de PIA vise à permettre le remplacement des fondations 75 40e avenue, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 75 40e avenue.
Alors, qui le propose?
Frédéric Lantier, je le propose.
Et qui l'appuie?
Jean-Yves Blot, je l'appuie.
6.2, demande de PIA quant à la propriété située au 297 rue des Tilleuls.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal ainsi qu'une entrée extérieure pour accéder au sous-sol. Le revêtement extérieur de l'agrandissement est le même que le bâtiment existant, soit en vinyle. Le revêtement de toiture est le même que le bâtiment existant, soit du bardeau d'asphalte. L'agrandissement est d'un étage avec sous-sol sur fondation en béton coulé. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-07-64, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 287 rue des Tilleuls, considérant que la demande de PIA n'est pas conforme aux règlements municipaux mais qu'elle a fait l'objet d'une dérogation mineure, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 287 rue des Tilleuls.
Alors, qui le propose?
François Robin me propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Lantier, je l'appuie.
6.3, demande de PIA quant à la propriété située au 2850 boulevard des Promenades.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre l'implantation d'une enseigne en façade principale de 18 pieds par 1,8 pieds et d'une enseigne sur le côté latéral gauche de 24 pieds par 3 pieds. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-07-63, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'ajout de deux enseignes sur un bâtiment commercial au 2850 boulevard des Promenades, considérant que la demande de PIA n'est pas conforme aux règlements municipaux mais qu'elle a fait l'objet d'une dérogation mineure, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 2850 boulevard des Promenades.
Alors, qui le propose?
Frédéric
Lantier,
je le propose.
Et qui l'appuie?
Bonjour, je viens d'appuyer.
Madame Lamérin, juste une question, là. Là, on est conscient que suite à cette résolution-là et la résolution de la dérogation mineure, le dentiste, la compagnie, va avoir 4 enseignes sur bâtiment et une enseigne sur poteau, là, pour un total.
Alors, je vais demander à monsieur... Oui, je vais demander à madame Lantier ou à monsieur Racine, vous étiez au CCU quand vous en avez discuté?
Je me rappelle bien, il y avait le jardin en bas, on faisait juste rajouter le dentiste en haut et même chose sur le côté. Donc, les quatre enseignes, si ma mémoire est exacte, c'est avec le jardin qui était au début, c'est pas quatre enseignes pour le dentiste.
Allez-y, M. Rassel. C'est exactement ça. Il en faut une, puis
modifié pour ton dentiste.
Fait que là, les autres sont enlevés au niveau du rez-de-chaussée. Puis c'est deux nouvelles qui vont être rajoutées. Oui.
Oui, exactement.
OK. Parce que pas clair dans la résolution de la demande de dérogation du dentiste.
Dans le deuxième considérant, là, c'est vise à permettre le remplacement de deux enseignes sur un bâtiment. OK?
Mais c'est pas tout à fait ça, parce que là, il ne remplace pas les enseignes, c'est qu'il les met.
Vise à permettre le remplacement de deux enseignes sur un bâtiment commercial. Alors, c'est qu'on remplace. On les modifie d'emplacement, on le voit sur les plans. C'est beau?
Oui.
Alors, 6 points.
Ça va être rajouté, Mme Magrétien?
Oui, c'est fait, M. Rabian. Moi, je l'ai fait sur ma copie.
Oui.
6.4, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 297 rue des Tilleuls. Alors, il s'agit ici de demander permettre la délivrance d'un permis d'agrandissement pour le 297 rue des Tilleuls. Et il s'agit de permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 5,56 mètres au lieu de 8 mètres.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 5,56 mètres au lieu de 8 mètres, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-07-61, considérant la demande vise à permettre la délivrance d'un permis d'agrandissement pour le 297 rue des Tilleuls, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant que le site derrière la propriété n'est pas constructible. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 297 rue des Tilleuls.
Alors, qui le propose?
François Lapin le propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Lanté, je l'appuie.
Madame
Lanté,
j'ai un autre commentaire à faire là. Sur cette résolution-là, là, le dernier considérant, là, considérant que le site derrière la propriété n'est pas construisible, je pense pas que ça soit vraiment une bonne raison pour une dérogation mineure. Parce que ça veut dire que tous ceux qui ont des terrains non construisibles à l'arrière d'eux autres, ça leur donne le droit d'avoir une dérogation mineure versus une autre personne qui a.
Monsieur Robillard, c'est quant à la marge arrière, on ne dérange pas le voisin d'arrière puisqu'il n'y aura personne. Je pense que c'est tout à fait légitime que d'avoir indiqué ça comme ça. Oui,
mais c'est qu'on en parle déjà, en considérant la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la distance ou à la propriété des 19 voisins. Je pense que ça résume pas mal l'entente. Dernier considérant, je pense que c'est superflu.
Là,
c'est un peu mal à l'aise.
Mais là, il a été adopté comme ça, M. Robillard. Est-ce que vous demandez le vote sur cette résolution-là?
Je ne demandais pas le vote sur un considérant comme ça, mais je souligne quand c'est même beau. Mon malaise face à cette phrase-là.
Alors, 6.5, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 2850 boulevard des Promenades. Alors, il s'agit ici de permettre un total de 2 enseignes à plat sur le bâtiment au lieu d'une enseigne sur le bâtiment.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre un total de 2 enseignes à plat sur le bâtiment au lieu d'une enseigne, la demande vise également à permettre ces enseignes hors des limites du rez-de-chaussée. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-07-59. Considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis d'enseigne pour le 2850 boulevard des Promenades, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2850 boulevard des Promenades.
Alors, qui le propose?
Frédéric Lanté, je le propose.
Et qui l'appuie?
Je l'appuie.
6.6, demande de dérogation mineure quant à la propriété située.
Madame la mairesse, encore une fois, cette résolution-là, je veux m'assurer que c'est seulement deux. Là, parce que dans les papiers que j'ai reçus, les explications du CCU, c'est pas clair.
Mais là, dans le considérant, M. Robillard, c'est clairement indiqué. Alors, 6.6, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 3101 chemin d'Oka. Alors, il s'agit ici d'une demande de dérogation qui vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 5.08 mètres au lieu de 8 mètres.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 5,08 mètres au lieu de 8 mètres. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-07-60, considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis d'agrandissement pour le 3101 chemin d'Oka, considérant que l'application du règlement du zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3101 chemin d'Oka.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lanté, je l'appuie.
Nous allons passer à 6.7, une demande de dérogation mineure quant à la propriété située sur le lot 2 209 806. Alors, il s'agit ici qui vise à permettre la façade principale de deux bâtiments de type multifamilial de 12 logements sur deux lots distincts d'être à 90 degrés par rapport à la ligne avant du terrain au lieu de 30 degrés. La demande vise également à permettre une largeur pour les deux bâtiments de 12,5 mètres au lieu de 15 mètres.
Considérant qu'en date du 7 juillet 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre la façade principale de deux bâtiments de type multifamilial de 12 logements sur deux lots distincts d'être à 90 degrés par rapport à la ligne avant du terrain au lieu de 30 degrés. La demande vise également à permettre une largeur sur deux bâtiments de 12,5 mètres au lieu de 15 mètres. Considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-07-62, considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis de construction pour le lot 2209 806, considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas préjudice sérieux aux demandeurs, en conséquence, il est résolu de refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété cise sur le lot 2209 806.
Alors, qui le propose?
Émilie Clancier, je le propose.
Et qui l'appuie?
Je vois le
Nous allons passer au point numéro 7, l'administration 7.1, acquisition de terrain, DIC 2019, autorisation de signature.
Considérant les événements du 27 avril 2019, considérant le décret 403-2019 concernant l'établissement du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents survenant avant le 31 mars 2021, considérant qu'en vertu du dit programme d'aide financière, le propriétaire d'une résidence principale, impossible à réparer ou à reconstruire, peut céder le terrain sur lequel elle se trouve à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, considérant que certaines propriétés inondées sont déclarées pertes totales et qu'elles ont été démolies, considérant que des propriétaires de propriétés impossibles à réparer ou à reconstruire ont manifesté à la ville le désir de lui céder le terrain sur lequel ses propriétés se trouvent et ce pour la somme nominale de 1 $. En conséquence, il est résolu de signer l'acte notarié de cession du terrain, des terrains ci-après décrit pour la somme nominale de 1 $. Un immeuble connu est désigné comme étant le lot numéro 1463926 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé au 52 19e avenue. Le numéro de lot 1463738, situé au 10 28e avenue. Le numéro de lot 1464024, situé au 20 19e avenue. D'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la ville les actes de cession et tous les autres documents requis au présent au fin de la présente résolution.
Alors, qui le propose?
Et le bon propose.
Qui l'appuie?
L'Hydro l'appuie.
7.2, entente avec Hydro-Québec quant au feu de circulation à l'intersection de la rue de l'Érablière et du chemin d'Oka, autorisation de signature.
Considérant le projet d'implantation d'un feu de circulation à l'intersection de la rue de l'Érablière et du chemin d'Oka, considérant la nécessité de déplacer des poteaux électriques, considérant que des coûts sont reliés à ces travaux, considérant l'entente intervenue par la résolution 2019-03-051 entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le ministère des Transports quant à la reconnaissance des responsabilités et du partage équitable des coûts des travaux, en conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville l'entente entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Hydro-Québec quant au déplacement d'une portion du réseau de distribution, de même que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.
Alors, qui le propose?
Jean-Yves Lajeunesse le propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Cantier, je l'appuie.
Alors, le point numéro 9.1. Construction d'une digue en remblai entre la 9e avenue et la rue Pomerol, SP 2019-026, dépassement de coût.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP 2019-026 pour la construction d'une digue en remblai entre la 9e avenue et la rue Pomerol, considérant que ces travaux ont occasionné des frais supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coût de plus de 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise Loisel Inc. d'un montant de 382 359 $ et 8 sous, plus toute taxe applicable pour la construction d'une digue en remblai entre la 9e avenue et la rue Pomerol, vu la prolongation des travaux.
Alors, qui le propose?
Et le bon propose.
Qui l'appuie?
Bonjour,
9.2, imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue en remblai, SP 2019-017, dépassement de coût.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue à l'entreprise Duroquin Construction par sa résolution 2019-08-177, considérant que ces travaux ont occasionné des coûts supplémentaires. Considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coût de plus de 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise Duroquin Construction le montant de 635 494,98 plus toute taxe applicable pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue vu la prolongation des travaux.
Tu le proposes?
Et je vous propose.
Qui l'appuie? Alors, il s'agit ici d'enrochement. Il y a eu des émissaires de plus et évidemment l'élargissement du canal de la Frayère qui est en train de ou qui se faisait la semaine dernière. 9.3, emprunt, marge de crédit, autorisation de signature.
Je n'ai pas compris la dernière phrase que vous avez fait.
Plus le canal autour de la Frayère. Oui, qui se terminait ou qui s'est fait en partie la semaine dernière. 9.3, emprunt, marge de crédit, autorisation de signature.
Considérant les besoins de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac quant à l'encaisse à court terme, en conséquence, il est résolu de contracter un emprunt sous forme de marge de crédit auprès de la banque TD au montant de 5 millions de $, d'autoriser la mairesse et la trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.
Qui le propose? Qui l'appuie?
Je l'appuie.
Madame, on peut être content des indications pour cette résolution-là?
Oui, c'est qu'on a des problèmes à court terme parce qu'on n'avait pas demandé. La taxation n'est pas entrée comme d'habitude, alors on a un problème de liquidité.
OK.
Alors, nous allons passer au point numéro 10. 10.1, Comité d'aide alimentaire des Patriotes, demande d'aide financière.
Considérant que le CAP approvisionne un autre organisme reconnu par la Ville, les aides de la paroisse Sainte-Marie-du-Lac, considérant qu'ainsi, les citoyens en situation de pauvreté de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent bénéficier d'une sécurité alimentaire, considérant que, vu l'état d'urgence sanitaire, les besoins sont d'autant plus grands, considérant que le CAP est un organisme régional reconnu. En conséquence, il est résolu d'octroyer une aide financière au Comité d'aide alimentaire des Patriotes au montant de 250 $ pour l'année 2020.
Qui le propose?
Frédéric Lanté, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean Guillaume, je l'appuie.
10.2, aide financière, Sainte-Marie-Ève.
Considérant la réception d'une demande d'aide financière du Centre Marie-Ève en date du 20 juillet 2020, considérant que cet organisme vient en aide aux citoyennes de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en conséquence, il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 160 $ à l'organisme Centre Marie-Ève à titre d'aide financière pour leurs activités bénéfices du 3 septembre 2020.
Qui le propose?
Frédéric Lantier, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean Guiblot, je l'appuie.
Point numéro 11, art et culture. 11.1, programme aide au projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Demande de subvention.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite se prévaloir du programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, en conséquence, il est résolu d'autoriser la directrice de la bibliothèque à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif à la demande d'aide financière dans le cadre du projet en développement provenant du ministère de la Culture et des Communications pour l'exercice financier 2020-2021 que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à autofinancer le projet.
Qui le propose?
Frédéric Lanté, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean Guignot, je l'appuie.
13, travaux publics. 13.1, entretien hivernal du réseau routier, renouvellement du contrat.
Considérant l'octroi d'un contrat à l'entreprise Brunet et Brunet relatif à l'entretien hivernal du réseau routier pour l'année 2019, considérant la possibilité de renouveler le contrat octroyé par la résolution numéro 2019-11-260 pour 4 années additionnelles, considérant la recommandation de M. Carl Scanlan, directeur général, en conséquence, il est résolu de renouveler le contrat de Brunet et Brunet Inc. pour l'entretien hivernal du réseau routier pour les saisons 2020-2021. 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 pour un montant de 6 257 363,71 plus toute taxe applicable.
Qui le propose?
Jean-Guy Lajeunesse le propose.
Qui l'appuie?
François Lajeunesse, je l'appuie.
13.2. Entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements, renouvellement de contrat.
Considérant l'octroi d'un contrat à l'entreprise Liling Paysagement Inc. relative à l'entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements, considérant la possibilité de renouveler le contrat octroyé par la résolution numéro 2019-11-261 pour une période de 4 années additionnelles, considérant la recommandation de M. Cascanan, directeur général, en conséquence, il est résolu de renouveler le contrat de Liling Paysagement Inc. relatif à l'entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements pour les saisons 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 pour un montant de 238 203,12 plus toute taxe applicable.
Alors, qui le propose?
Jean-Guy Lajeunesse le propose.
Qui l'appuie?
François Lajeunesse l'appuie.
Nous allons passer au point 14, les services techniques. 14.1, construction d'un feu de circulation sur le chemin d'Oka, route 344 et la rue de l'Érablière, octroi de contrat.
Considérant l'appel d'offres public SP-2020-11 sur SEAO, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 16 juillet 2020 qui se lit comme suit. Entreprise Pavage Multipro, montant de la soumission avant taxe, 1 296 261,30. Entreprise Cité Mire Excavation Inc., montant de la soumission avant taxe, 1 409 000. Entreprise Unira Construction, montant de la soumission avant taxe, 1 530 763,10. Et entreprise Construction Anor, montant de la soumission avant taxe, 1 548 387. Considérant la recommandation de groupe conseil BSA d'octroyer le dit contrat à Pavage Multipro, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat SP-2020-11 relatif à la construction d'un feu de circulation sur le chemin d'Oka, route 344 et de la rue de l'Érablière à l'entreprise Pavage Multipro pour un montant de 1 296 261,30 plus toute taxe applicable.
Qui le propose?
Et le groupe propose.
Qui l'appuie?
Bonjour, je l'appuie.
14.2, surveillance et gestion du contrat de construction, feu de circulation, chemin d'Oka et rue de l'Érablière, octroi de contrat.
Considérant l'appel d'offres sur invitation ONV 2020-013 auprès de 3 entreprises, considérant la réception et l'analyse des soumissions en date du 24 juillet 2020, dont les résultats se lisent comme suit. Entreprise IGF Action, montant de la soumission avant taxe, 66 500. Entreprise Stantec, montant de la soumission avant taxe, 69 500. Entreprise Cima Plus n'a pas soumissionné. Considérant la recommandation de M. Cascanlan, directeur général, d'octroyer le contrat à l'entreprise IGF Action et ce conformément au règlement concernant la gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat INV 2020-13 relatif à la surveillance et la gestion du contrat de construction de feux de circulation au coin du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière à l'entreprise IGF Action pour un montant de 66 500 plus toute taxe applicable.
Alors, qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Lajeunesse, je l'appuie.
Alors, nous allons passer au dépôt.
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction pour le mois de juin 2020. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions pour le mois de juin 2020. Dépôt du rapport du directeur général concernant la signature des contrats pour le mois de juin 2020. Dépôt des statistiques de la bibliothèque pour le mois de juin 2020.
Alors, nous allons passer à la période de questions. Alors, nous avons reçu une question de Mme Barbara McNamara, 500 rue du Pomerol.
Madame McNamara demande à quel moment la construction de la digue sera complétée.
La construction de la digue sera complétée d'ici la fin de l'automne cette année.
Madame McNamara demande si un accès au lac des Deux-Montagnes sera disponible pour les bateaux.
Nous allons octroyer le contrat pour la conception de 3 descentes à bateaux le mois prochain. Pour le moment, la descente qui est accessible aux citoyens est située sur la 37e avenue.
Madame McNamara se demande si la pelouse qui a été semée sur le talus de la digue sera remplacée, considérant que celle-ci ne pousse pas.
Nous sommes conscients de la problématique et la température
exceptionnelle. Est-ce que c'est possible de répéter? Je m'excuse, on n'a rien compris.
Oui.
C'est parce que ça... Il y a encore, c'est comme un bruit de canne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait peut-être le son à l'oreille, là, qui a... Je ne sais pas. Probablement qu'il y a quelqu'un qui a ça, parce que ça, vraiment, là, on a... Ça sonne cacane, pour ne pas dire autre chose. Alors, Mme McNamara se demande si la pelouse...
Vous pouvez répéter la question?
Oui, bien, c'est ce que je dis, M. Legault. Mme McNamara se demande si la pelouse qui a été semée sur le talus de la digue sera remplacée, considérant que celle-ci ne pousse pas. Alors, on est conscient de la problématique. La température exceptionnelle des dernières semaines a joué pour beaucoup dans cette situation. On regarde les différentes options qui s'offrent à nous pour régler cette problématique, mais il faut dire que les deux entrepreneurs ont une obligation de résultat, donc nous allons suivre le dossier de très près et c'est aux entrepreneurs à faire le travail, mais ils vont être suivis de très près par les gens du garage municipal.
Madame McNamara souhaite savoir pourquoi le mur bâti sur le côté de la digue à la hauteur de la rue du Pomerol est couvert seulement de moitié.
Alors, il s'agit de pales planches qui ne seront pas recouvertes puisqu'elles ne sont pas en bordure du lac. Elles ont été installées pour protéger la ville advenant une inondation provenant de la ville voisine. Par contre, nous regardons actuellement les possibilités pour rendre le tout plus esthétique.
Madame McNamara demande à quel moment seront retirées les clôtures de construction.
Alors, les clôtures étant présentes pour assurer la sécurité du chantier, elles seront donc retirées seulement qu'une fois que la construction de la digue sera complétée.
Question de M. Marc-Olivier Tremblay du 182 rue des Anges. M. Tremblay aimerait avoir plus d'informations quant à l'avancement du projet de construction de la piscine.
Ce projet est toujours en cours. On a présenté une nouvelle demande de subvention pour laquelle nous attendons une réponse dans les prochains mois. Dans l'intervalle, la conception des plans et devis avance bien et nous sommes optimistes quant à un début des travaux imminents.
Question de Mme Sylvie Chadillon du 294 rue de la Sève. Mme Chadillon s'inquiète de la circulation à l'intersection du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière. Considérant le projet domiciliaire en cours dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, elle se demande comment s'effectuera la circulation à cet endroit une fois le projet domiciliaire terminé.
Alors, en 2016, une entente est intervenue entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour qu'aucune circulation ne soit autorisée tant et aussi longtemps que le feu de circulation ne sera pas fonctionnel. Une fois le feu de circulation en place, seul un virage à droite vers le chemin d'Oka sera autorisé pour les résidents de Saint-Joseph-du-Lac sortant du projet.
Une question de M. Martin Clément du 229 rue de l'Érablière. M. Clément aimerait savoir la raison pour laquelle l'implantation d'un feu de circulation au coin de la rue de l'Érablière et du chemin d'Oka a été privilégiée à un panneau d'arrêt.
Alors, nous avons privilégié un feu de circulation afin de protéger les piétons et les cyclistes, mais également pour assurer une meilleure fluidité du trafic, puisqu'il était difficile pour les automobilistes de sortir par la rue de l'Érablière pour s'engager sur le chemin d'Oka.
Question de Mme Julie Pelletier du 228 32e Avenue. Mme Pelletier nous demande de lui expliquer quelles options nous avons envisagées afin de pouvoir accueillir nos citoyens à la séance du conseil de ce jour.
Nous suivons évidemment la situation et les recommandations gouvernementales de très près. Le décret 689-2020 prévoit plusieurs mesures sanitaires qui sont applicables aux séances du conseil municipal, à savoir limiter à 50 le nombre de personnes qui peuvent se rassembler et respecter la distanciation sociale. À cela s'ajoute l'obligation de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics. Tel que mentionné, avant le début de la séance, la limite de 50 personnes inclut les membres du conseil et le personnel, ce qui limite les places pour les citoyens. Nous ne voulions en aucun cas être discriminatoires. Enfin, à l'exception d'une seule, les municipalités environnantes ont également fait leur dernière séance sans la présence du public. Les séances pourront éventuellement se faire en présence de la population, mais nous tenons à ce que ce soit fait dans les meilleures conditions, le tout dans le but de préserver les efforts réalisés jusqu'à présent pour limiter la propagation du virus.
Madame Pelletier aimerait connaître le taux de manganèse dans l'eau. Elle se questionne également à savoir si la ville va offrir un système de filtration ou des bouteilles d'eau, car elle considère que plusieurs citoyens n'ont pas accès à de l'eau potable.
Entre le 16 décembre 2019 et le 1er juin 2020, les résultats démontrent une moyenne de 0,065 mg par litre sur 19 échantillons d'eau potable, avec un écart type de 0,029 mg par litre. Selon le gouvernement fédéral, une concentration maximale acceptable serait de 0,12 mg pour le manganèse dans l'eau potable. Alors, il faut savoir que la coloration de l'eau ne fait pas nécessairement en sorte que celle-ci n'est pas potable. Par ailleurs, nous sommes confiants que le plan d'intervention en place solutionnera les problèmes esthétiques qui ont été rapportés par plusieurs citoyens. On a fait le tour de beaucoup de citoyens. On est allé prendre des prélèvements chez ces citoyens-là qui ont appelé à la ville pour nous aviser qu'ils avaient un problème. Pour plus d'informations concernant l'eau potable, nous vous invitons à consulter la foire aux questions disponibles sur notre site Internet.
Question de Mme Renée Lortie du 2 Première Avenue. Madame Lortie s'inquiète de la circulation sur la digue et demande quelle est la solution à long terme qui est envisagée par la ville pour y remédier.
Alors, la ville a octroyé un contrat pour la fourniture et l'installation des clôtures. Celle-ci devrait résoudre la problématique lorsque l'installation sera complétée.
Question de M. Pierre Corbeil du 91 32e Avenue. M. Corbeil se questionne sur l'impact des nouveaux développements immobiliers sur la quantité d'eau potable disponible pour la population martelacoise.
Alors, nous n'avons aucun problème d'approvisionnement. Le réseau est adéquat pour la population actuelle et l'usine pourrait être adaptée si cela s'avérait nécessaire.
Question de Mme Michèle Fortin du 37 9e Avenue. Madame Fortin aimerait savoir si une évaluation du marais et du boisé situé sur le boulevard des Promenades à l'intersection du chemin d'Oka a été réalisée et quels sont les résultats.
Alors, le contrat a été octroyé. L'évaluation n'est pas encore réalisée, mais le contrat a été octroyé et nous sommes évidemment dans l'attente du rapport des experts.
Madame Fortin aimerait savoir si la Ville a l'intention de faire construire une résidence pour personnes âgées autonomes et le cas échéant, est-ce que la population sera consultée quant à l'emplacement et aux services offerts?
La Ville a déjà tenté de faire des modifications au règlement de zonage afin de permettre la construction d'une résidence pour personnes âgées en face de l'hôtel de ville, mais suite à la consultation publique, le règlement n'a pas été adopté vu les oppositions. Il est certain que nous souhaiterions offrir ce service à nos citoyennes et citoyens, mais les emplacements possibles demeurent limités et encore faut-il trouver un investisseur qui est intéressé par un tel projet.
La Ville a-t-elle l'intention de planter des arbres sur le boulevard des Promenades le long de la piste cyclable pour embellir cette artère et diminuer les îlots de chaleur?
Alors, la plantation d'arbres sur le boulevard des Promenades était déjà planifiée pour cet automne, puisque nous attendions que les travaux d'Hydro-Québec soient terminés.
Question de Mme Sylvie Clermont du 2978 rue des Chênes. Madame Clermont suggère qu'un pourcentage des terrains cédés à la ville puisse être utilisé pour la création de mini-forêts d'arbres indigènes afin de favoriser la canopée et la biodiversité de la flore et de la faune.
La ville n'a pas encore pris de décision finale quant à l'utilisation des terrains cédés puisque nous devons faire un inventaire des terrains une fois que les cessions de terrains seront complétées. Mais nous avons effectivement discuté de la possibilité de faire des parcs ou des espaces verts avec ces terrains-là. Nous prenons donc la suggestion de Mme Clermont en note.
Mme Clermont se demande si la ville est considérée comme étant dans une zone non inondable ou dans une zone inondable avec gestion de risque, suivant la construction de la digue ainsi que les travaux de la communauté métropolitaine de Montréal.
Alors, les travaux de la communauté métropolitaine de Montréal étant toujours en cours, aucune qualification officielle n'a encore été donnée.
Les questions 3 et 4 de Mme Clermont portent sur le règlement 1400 concernant le zonage. Elle indique que le règlement fait mention de plaines inondables pour une récurrence 0,20 ans ou 20 à 100 ans et se demande si la réglementation sera adaptée suivant les travaux de la CMM.
Alors, des changements au règlement de zonage devront effectivement être faits afin de refléter la qualification officielle qui sera adoptée par la CMM. Il faut aussi savoir que celle-ci sera également soumise à la MRC ainsi qu'à l'approbation du gouvernement provincial.
Madame Clermont demande des précisions quant au point 5.2 et au point 5.6 à l'ordre du jour.
Alors, le point 5.2 vise à modifier le règlement 1300 concernant les permis et certificats afin que la définition du sous-sol soit modifiée. Plus précisément, nous avons ajouté le fait que pour être considéré comme un sous-sol, une partie d'un bâtiment doit se situer à au moins 60 cm sous le niveau moyen du sol. L'ancien libellé n'était pas aussi précis et engendrait une problématique au niveau de l'interprétation. Le point 5.6 à l'ordre du jour concerne une modification au règlement 1400 afin de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée. Ce niveau est aussi augmenté à 2,5 mètres par rapport à la crête de la rue, notamment à cause de la nappe phréatique. Cette modification au règlement est principalement faite pour pallier à une problématique pour les citoyennes et les citoyens qui souhaitent reconstruire au sud du chemin d'Oka.
Question de M. Marc-André Daou du 210 rue James. M. Daou aimerait avoir des précisions quant à la demande de modification de zonage pour le terrain situé au 3174 chemin d'Oka, le restaurant Le Mystique. Il souhaiterait savoir si une demande a été déposée et le cas échéant, qui a fait la demande et quels terrains seront affectés par celle-ci.
Alors, nous sommes en mesure de vous confirmer qu'une demande a été déposée, mais considérant qu'il s'agit d'un processus décisionnel en cours, nous ne pouvons malheureusement pas vous fournir les détails demandés. Advenant le cas où la demande serait acceptée, la modification au règlement serait précédée d'un avis de motion et du dépôt d'un projet de règlement. Des avis seraient publiés tels que requis dans le cadre de procédures de modification de règlement de zonage. Alors, c'est tout pour les questions des citoyens qui nous ont été transmises. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, il y a d'autres questions. François Robillard.
Je n'ai pas été vérifié, mais on souligne que l'asphaltage de la piste cyclable sur le boulevard des Promenades laisse à désirer à quelques endroits. Est-ce qu'on pourrait faire une vérification? Puis est-ce qu'on a une possibilité là, de négocier avec le Québec si on n'est pas satisfait de l'asphaltage qui a été fait?
OK. On a déjà des discussions avec Hydro-Québec relativement aux mauvaises herbes. Comme vous avez sûrement pu le constater aujourd'hui, et hier, ils ont fait la coupe de la mauvaise herbe qui a poussé. Et effectivement, la piste cyclable laisse à désirer, comme vous le dites. Là. Oui, il y a des pourparlers avec Hydro-Québec à cet effet-là.
Parfait. Question concernant l'ancienne descente de bateau de la 44e avenue. Là. Avez-vous d'autres explications à fournir aux citoyens tant que ça va devenir là, la descente l'ancienne descente de bateau de la 44e okay. avenue?
Alors, la descente de bateau de la 44e avenue va être une descente qui va être réservée aux gens avec des canots. Les gens avec des planches à voile, mais ce ne sera plus une descente à bateau comme ce l'était à l'époque.
OK, mais il va quand même y avoir une partie asphaltée pour qu'ils puissent, ces gens-là puissent avec un chariot descendre leur embarcation à l'eau?
Non, il n'y aura pas de descente de bateau comme telle. Ça va être un chemin avec comme des marches un petit peu comme ce qu'on peut voir, je dirais, là, à Pointe-Calumet, là, à certains endroits. Là.
Ou comme il y avait à la 9e avenue à l'époque.
Là, je... Oui. Effectivement. Et... Ça va vraiment être une descente et non pas une descente avec remorque.
Okay. Parce que c'est sûr que si on veut descendre un kayak, si on est seul, si on descend des escaliers, ça risque de ne pas être pratique.
Mais c'est pour ça que je vous disais que ce serait un petit peu plus probablement. On est en train de regarder ça avec l'ingénieur au dossier. Là. On va essayer de faire un petit peu ce que je vous disais là, de Pointe-Calumet. C'est parce que ça fait comme une descente. Là, je veux pas dire là, comme une descente pour les handicapés. Là. Alors, ce serait ça longerait la digue ben, en descendant.
Et puis est-ce que de descente-là qu'on vise au niveau de la 44e avenue, est-ce qu'il va y avoir d'autres sites de ce type-là ailleurs, à d'autres endroits sur la digue, comme mettons la 16e avenue, à d'autres endroits où est-ce qu'il y avait des accès, puis finalement on en a plus ou moins?
Pour le moment, non. C'est parce que actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on sécurise ce qui n'est pas encore fermé. Alors, c'était les descentes à bateau. Donc, la 44e avenue, la 37e avenue, la 20-quelquième avenue et la 13e avenue.
Mais là, la 44e avenue n'est pas fermée encore?
Non.
OK, mais dans le contrat qui a été donné de descente à bateau, c'est qu'ils vont la fermer?
Oui. Ben, il va falloir qu'ils les ferment ou qu'ils les modifient. Mais il faut que ce soit à la même hauteur que la digue. Actuellement, ces endroits-là ne sont pas à la même hauteur que la digue.
Pour... Ah, mais ça, la 44e avenue fermée, ce secteur-là, c'est dans le contrat qu'on a donné des descentes à bateau de la 13, de la 29 et de la 37e.
C'est dans le contrat de la digue, ça.
Dans le contrat de la digue.
Oui.
Mais dans le fond, on n'a jamais considéré la 44e dans le bateau là, qu'on allait faire.
OK. La 44e avenue, en période estivale, on est tous conscients qu'il n'y avait pas assez d'eau. Personne ne pouvait descendre avec un bateau là. OK. Et la configuration des lieux faisait en sorte que nous devions entrer beaucoup, beaucoup plus sur le terrain des deux citoyens riverains. Et c'est pour ça que la décision des ingénieurs qui nous ont recommandé, c'est de faire une descente seulement pour des gens qui sont à pied et non pas avec un véhicule automobile.
Mais là, pour l'hiver aussi, pour les cabanes à pêche, ça va tout se faire par la 37e avenue.
37e, oui, ou la 13e.
OK. C'est bon? Quand on a donné le contrat pour les clôtures, pour préparer les terrains, le mois passé, j'ai parlé peut-être d'amender le contrat pour faire des actifs pour recevoir des escaliers. Est-ce que ça a été... vu par les ingénieurs et considéré.
Pour faire des assises aux clôtures?
Non, c'est que dans le contrat de clôture, c'est de faire de mettre des assises coulées là, dans le sol pour que les riverains puissent aller installer leurs escaliers pour avoir accès à l'eau. Au lieu que ce soit des escaliers comme n'importe où ils veulent les placer, là, mais au moins s'il y avait des assises avec des ancrages, ben, ils pourraient aller s'accrocher à une place de pour simplifier leur escalier.
OK. Les ingénieurs ont ça en main et ils vont regarder quelle solution qu'ils pourraient privilégier pour que les gens puissent aller mettre leurs escaliers ou pour pouvoir installer une descente.
Parce que, comme je vous ai dit le mois dernier, c'est qu'ils vont déjà creuser dans la digue pour aller couler les poteaux de clôture, ben, ce serait peut-être le temps de creuser un peu plus large et d'aller couler natif pour les localités. Donc, je vous répète ce que j'ai dit le mois dernier. Au niveau de la 37e avenue, j'attends toujours les plans de terrain qu'on a acquis là, pour la descente de bateau. Vous étiez supposé m'envoyer ça suite à la dernière assemblée.
OK. Il y a eu une rencontre aujourd'hui avec le promoteur. Et il y a eu des discussions autour de comment est-ce que ça allait être, le périmètre qui allait être cédé à la ville. Alors, ce n'est pas finalisé. Alors, on ne peut pas vous envoyer un document finalisé. Là. On n'a que des ébauches.
OK. Fait que ça, c'est pas signé encore.
Non.
Ça veut dire qu'on a pris des solutions, mais on n'a pas...
On a une entente, il n'y a pas de soumission dans ce dossier-là, on a une entente de principe.
Ben, on a une soumission pour la réfection de la descente de bateau de la 37e.
Le 11 août. On ouvre les soumissions le 11 août.
Ah, le 11 août, OK. Mon erreur.
OK.
Descente de bateau de la 27e avenue, est-ce qu'elle sera propriété de la ville plus à la...
Non, c'est un terrain privé qui appartient aux résidents de ce secteur-là.
OK. C'est la ville qui refait la digue, mais ça reste quand même propriété de l'OSB, la
oui.
ville sans musicale.
Oui. C'est qu'on avait indiqué 2 mètres dans le règlement et le 2 mètres, si on laisse le 2 mètres, il y a des propriétés où on passe presque dans la cuisine des gens. Alors, on doit modifier ce qu'on a de déposé pour pouvoir indiquer que les gens qui ont des infras ou des biens installés qui sont déjà là, existants, ils vont pouvoir les laisser là. Exemple, une personne qui a sa piscine qui empiéterait de 5-6 pouces, bien, sa piscine, on n'exigera pas que les gens enlèvent la piscine.
OK, ils sont sûrement sur leur terrain.
C'est oui, et c'est surtout la problématique, on la retrouve surtout sur la rue Lambert où il y avait déjà un mur existant là.
Oui, la leur propriété allait jusqu'au mur. Hein?
Pour la plupart des gens, oui. Pas tous, là, mais la plupart des gens, oui.
OK. Pourquoi l'Assemblée est-elle à huis clos? Je me pose la question parce que dans les dernières assemblées, là, on n'a pas atteint de 50 personnes d'assistance sur l'Assemblée. Je trouve ça un peu désolant, on est encore à huis clos. Je ne sais pas si parce que vous aviez peur qu'il y ait un accoupement de citoyens qui sortent de l'eau, là. Et c'est comme ça qu'on a calmé tout, là, mais je pense qu'il y a plus d'accessibilité.
Monsieur Robillard, vous êtes mesquin dans vos propos.
Oui?
Oui, très.
Parce que plus d'accessibilité, je pense que le monde peut comprendre que si la salle est pleine, dû à des contraintes gouvernementales, ben, il y a moyen de s'arranger pour entendre les citoyens.
Alors, le mois prochain, M. Robillard, ça va être public.
Parfait. Pourquoi il y a beaucoup de pompes au sud du Maloca, là, à divers places, là, pour
prennent la source artificielle et tu jettes dans les égouts. Là.
OK. On fait des travaux sur le bord de la Fréhère et on vide le bon, tantôt, là, je parlais du canal là, sur le bord de la digue, là, de la Fréhère surtout, là, le gros fossé qu'il y a là. Ils sont en train de le nettoyer, ils sont en train de vider ce canal-là et c'est pour ça qu'il y a des pompes.
Dans le fond, le canal que vous parlez, là, c'est celui qui est derrière là, le secteur des maisons mobiles.
Oui.
OK. Fait que là, on le vide, puis ça, ces pompes-là sont au cas s'il y a une pluie intense qui arrive.
Non, c'est parce qu'on le vide, lui, le fossé, là. La nappe phréatique est haute, M. Robillard.
Oui.
Il y a de l'eau, là. Alors, on la pompe, okay. Cette eau-là.
OK, mais ça va être réveillé.
Oui, oui, M. Legault, c'est ça. Pour pouvoir travailler, il vide l'eau.
OK, parce que là, je l'aimerais comprendre, parce que là, il y a de l'eau qui rentre dans le filial. C'est parce que comme à la plage, là, il y a une pompe là, qui est là, à la plage, là, pour la 43e. Ça veut dire que cette pompe-là sert aussi...
Non, pas la pompe près de la plage. Là. Je vais vérifier, là. Pourquoi qu'elle est là, cette pompe-là? Moi, je peux vous dire que celle qui est installée plus vers le secteur de la Fréhère, là, c'est vraiment pour vider le canal, là, le fossé. Là.
OK, mais j'aimerais ça qu'on m'en vienne parce qu'à plusieurs endroits qui sont pas nécessairement très de la Fréhère, il y a des pompes installées là.
OK, je vais le faire vérifier demain et je vous reviens.
Merci. Vous allez me
revenir, hein, pour le plaisir? Ben non, pour le plaisir, M. Robillard.
Ben, parce qu'à chaque fois que vous me dites que vous allez me revenir, il y a donc une chance sur 6 que vous le faites.
Encore une fois, vous êtes mesquin. Encore une fois, vous êtes mesquin, M. Robillard.
Non, je suis pas mesquin. Non, je suis pas mesquin parce que la dernière assemblée, là, du jour, les trucs que j'ai demandé, ben, il n'y a rien qui m'a été envoyé. À mes demandes. Il n'y a pas de mesquinerie là-dedans, c'est juste de la réalité.
Bon, avez-vous d'autres questions?
Oui, j'ai d'autres questions. Au niveau de l'eau, il y a combien de personnes qui sont ici des questions entre le 21 et le 23 juillet? Par rapport aux questions.
Le nombre de questions, je ne l'ai pas avec moi. Par contre, je peux vous dire qu'il y en avait énormément.
Énormément, OK. Puis dans la foire aux questions, vous dites qu'il n'y a pas de sable dans le réseau. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié, là. Il n'y a pas de sable du tout, là, qui ramasse dans le réseau.
Ce n'est pas du sable. Les citoyens chez qui nous sommes allés pour aller prendre des prélèvements, ce n'est pas du sable. Et partout où on a vérifié, ce n'est pas du sable.
Fait que là, c'est du manganèse.
C'est du manganèse, c'est des dépôts des particules de manganèse. Depuis qu'on a eu une surconsommation d'eau potable, et quand je dis surconsommation, c'est 3 fois la quantité qu'on prend normalement qui était la demande là, des citoyens. Alors, depuis qu'on a eu cet épisode de surconsommation, on a eu énormément d'épisodes d'eau brune. Avant, c'était les épisodes sporadiques, comme on a toujours, ou à peu près toujours eu depuis l'installation des pompes et puis qu'on a fait l'usine, là, qu'on a modifiée, qu'on a rajouté l'usine là, pour traiter le manganèse et la dureté. C'était sporadique et ce qu'on nous disait, c'est que ce n'était pas c'était pas un circuit fermé qu'on avait. Moi, c'est ce qu'on me disait, c'est que c'était la problématique était dans les bouts de réseau. Et tant et aussi longtemps que ce ne serait pas fini d'être construit, la boucle n'est pas faite et on me disait que c'était ça. Les experts nous disaient ça ici. Non, par contre, on a la chaire de l'eau parce que M. Kevin Pinchot est ingénieur et il a une collègue, alors qu'il était à l'université, qui est à la chaire de l'eau et qui travaille à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac actuellement.
En fait, là, présentement, c'est une firme.
C'est la chaire de l'eau de la politique. Oui, c'est aquatique.
OK. À quoi data, on a envoyé un contrat par délégation pour une évaluation d'impact. Est-ce que c'est lié au réseau à l'eau?
C'est pour un problème d'approvisionnement ou de pression, que je pourrais dire, dans le coin des sœurs. Parce que l'abbaye est située sur un terrain qui est beaucoup plus élevé. Alors, c'est pour regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être certain de pouvoir les approvisionner en tout temps quand il y a surconsommation. L'approvisionnement, là, il y a eu des problèmes de pression à l'abbaye.
Okay. Question, vous avez pleuré, là, la piscine, on est rendu à combien, là, pour l'ensemble du projet?
Je ne pourrais pas vous dire.
Non, mais c'est pas estimé, là, quelques mois.
Là, vous êtes en train de me dire, je pensais que vous me demandiez ce qui avait été dépensé jusqu'à maintenant. Ah non, c'est 14 millions. 14 millions et.
Okay. Là, on a encore des dépenses l'ordre de 14 000 $ qu'on a donné à des architectes pour les plans et leviers. Est-ce que avant les plans finaux pour les soumissions, est-ce qu'on pourrait avoir une consultation publique pour que les citoyens soient au courant?
Bien, on va en discuter avec les membres du conseil, puis on vous reviendra avec ça. Oui,
parce que vous demandez la participation citoyenne au niveau de l'eau, mais la participation citoyenne au niveau des infrastructures, telle une piscine, c'est important aussi. Là.
Ouais. Avez-vous d'autres questions, M. Robillard?
Oui, j'ai d'autres questions. Avez-vous communiqué avec la commission scolaire? Pour le sujet de la nouvelle école.
Non.
Allez-vous le faire dans le prochain mois?
Là, je vais vous dire, avec tout ce qui tourne autour, j'ai eu une correspondance de la commission scolaire, mais là, je ne me rappelle pas de quoi il s'agissait, mais j'ai eu une correspondance de la commission scolaire. Il faudrait que je cherche ce qu'on m'a écrit, là, mais j'ai eu une correspondance.
Parfait. Rue Carole, vous avez pleuré au niveau de. Il y a une question là, d'une citoyenne du secteur Pomerol. C'est un secteur là, où est-ce que la patente va être à découvert. Aussi au niveau de la rue Carole, que ça va être à découvert les patentes.
Oui, il y a une section, la section qui donne sur la Frayère. On est en train de faire le même exercice que pour la rue du Pomerol.
OK. sur les financiers, pensez-vous arriver à une solution bientôt?
Oui, dans les prochaines semaines, là. Oui. Pardon?
Une répétition d'une question qui a été posée le mois passé.
Oui, M. Legault, c'est comme ça tous les mois.
Ben, je fais le suivi, madame. C'est ça qui arrive. Terrain vacant. On a plusieurs terrains vacants. Le gazon est très long, il n'y a pas de fauchage. Surtout dans le secteur, là, dans mon secteur, là, au niveau de la ville de Blantyre, c'est pas mal des terrains qui appartiennent à la GBD. On pourrait peut-être dire qu'il a coupé le gazon de ces terrains-là, ben, l'herbe, là, c'est pas du gazon, là, parce que c'est des secteurs où est-ce que le projet est complété, il reste quelques terrains vacants.
C'est beau, M. Rabiard, on en prend, on en prend note et on va aviser l'urbaniste pour qu'ils fassent leur travail avec GBD.
La 33e avenue, est-ce qu'il y a un suivi là-dessus au niveau de la 33e, la demande là, concernant le tournage?
Pour le moment, c'est le service d'urbanisme qui a le dossier.
OK, mais c'est... M. Legault, là, en parlant de répétition, ça, c'est la même réponse que j'ai eue le mois dernier, que c'était les urbanistes qui avaient le dossier en main. Ça serait le fun qu'on ait un suivi rapidement, parce que plus ça va aller, plus il y a de chances qu'il y ait d'autres multilogements qui s'installent. Au niveau de l'emprunt de 5 millions, elle m'a dit, quand je lui ai posé la question, là,
c'est tout simplement pour
de l'emprunt à Banque TD,
ouais.
Comme quoi que c'est un manque d'électricité. Mais pourtant, on n'a pas fait on a fait un report de taxes pour le premier versement, mais on n'a pas fait de report de taxes pour les. Mais
M. Rabiard, c'est une marge de crédit. Alors, c'est seulement si on en a besoin. On ne s'attend pas à l'utiliser, mais on le prend au cas où. Ce n'est vraiment pas dans le but de l'utiliser.
Parfait. Dernière question. On a parlé d'une citoyenne qui a posé la question au niveau du centre-ville. Comme quoi qu'on avait donné un contrat pour l'étude environnementale.
Oui.
C'est bien ça?
Oui.
Fait qu'on a donné, quand on a donné ce contrat-là?
On l'a donné dans le courant de la semaine dernière.
Et par délégation de pouvoir du directeur général?
Oui.
Et à qui on l'a donné?
C'est la même firme qui fait l'étude pour l'environnement, pour ce qui a été fait à la digue. Sur le bord de l'eau.
Et cette compagnie-là, elle a un nom?
MPO, je crois, ou quelque chose comme ça.
Parfait. Et puis, leur référentiel, pour faire le relevé et vous donner le rapport, c'est-tu en quelle date et quelle date?
Mais là, honnêtement, là, moi, c'est pas moi qui ai négocié avec la compagnie. Mais ils sont en train de nous faire le bord de l'eau. Alors, ils vont nous faire ce dossier-là en même temps. Là.
Est-ce qu'il est possible qu'on revienne avec la réponse, là, à savoir quand est-ce qu'ils vont aller sur le terrain?
Oui.
Je ne suis pas déchanté, là, quand il y a la question du rapport final.
C'est beau. Alors, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée?
François Lejeune le propose.
Et qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Alors, merci et bonne soirée.